Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est une émission spéciale santé. Dans le cadre des mobilisations dans les hôpitaux et EHPAD et dans la perspective de la journée de mobilisation du 14 novembre prochain, le NPA Santé a organisé un débat au bar, le lieu dit, le 28 octobre dernier. Alors en voici quelques extraits avec Christian Ben-Simon qui est médecin du monde et qui intervient sur la remise en question des soins pour les migrants et les demandeurs d'asile. Ensuite, il y aura Mathilde, qui est éducatrice spécialisée et qui fait le point sur les conditions de travail dans le secteur social. Et enfin, il y aura une intervention depuis la salle sur les raisons du recours aux urgences au lieu de se tourner vers la médecine de ville, avec une réponse sur cette question de Christian Ben-Simon. Bonne écoute.
Donc moi, je me présente, je suis Christian Ben-Simon. Je suis médecin généraliste, j'ai été 36 ans médecin à Saint-Denis, dans les quartiers populaires, dans les sites HLM. Et depuis la retraite, je suis bénévole à Médecins du Monde. Et maintenant, j'ai quelques responsabilités à Médecins du Monde, ce qui me permet d'intervenir et d'essayer d'influencer cette organisation humanitaire du champ de la santé. Et donc, peut-être juste pour faire le lien entre l'AME et quand même la mobilisation hospitalière, j'avais alerté à Médecins du Monde cet été et au mois de juillet, Médecins du Monde a pu publier une tribune dans le monde internet de soutien à la grève du service des urgences. Hein. Et c'était une tribune qui parlait de trois choses, qui était on soutient la grève du service des urgences parce que les urgences c'est la porte d'entrée des populations les plus pauvres, les plus précaires, les plus fragiles. Et ça, c'est notre ADN. Mais on a expliqué aussi que c'était l'iceberg de la crise de l'hôpital, et on y est. Donc on avait aussi précisé ça, qu'effectivement, c'était l'ensemble de l'hôpital qui était en grande souffrance. Et le troisième aspect, qui était plus par rapport aux usagers en général, c'est qu'on soulignait l'importance d'une couverture santé universelle. C'est-à-dire que même carte de sécurité pour tout le monde, même type de remboursement à 100% pour tout le monde. Pas de stigmatisation des pauvres, des migrants et des citoyens lambda. Voilà. Et donc, Médecins du Monde appelle et soutient, appelle à la manifestation du 14 novembre et pour la première fois défilera avec ses propres banderoles. Il y a une visibilité de Médecins du Monde et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Bien, ça c'était l'introduction. Parler de l'aide médicale d'État. Je ne vais pas vous dire ce que c'est que l'aide médicale d'État, je pense que vous savez, ça regroupe quand même, ça concerne un peu plus de 300 000 personnes, ça a un chiffre, un coût de 950 millions, et pour les gouvernements actuels, ça coûte trop cher. C'est leur façon de voir les choses. C'est le prétexte, le coût financier. Derrière ça, il y a effectivement une attaque par rapport à la politique migratoire. Il y a trop de migrants, etc. Et on est un peu dans la séquence actuelle de Macron qui a choisi sortir ce dossier de la migration pour essayer de faire la course derrière l'extrême droite et la droite qui se radicalise. Alors, cet été, le gouvernement a missionné l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et puis les inspecteurs de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, pour sortir un dossier qui reverrait en gros la copie, pas uniquement d'ailleurs de l'aide médicale d'État, mais des droits à la santé des migrants. Puisque ça, je vais y venir, mais ça ne touche pas finalement que l'AME, les attaques à venir là. Donc il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites par des députés de La République en Marche sur ce qu'il y avait dans ce rapport, qui n'est toujours pas publié. Hein. Il va être publié ces jours-ci, là. Mais ce qu'on a su, qu'il y avait trois types de remises en question probables, qui étaient le panier de soins, qui est déjà un peu réduit d'ailleurs de l'AME par rapport à la CMU ou par rapport à la sécu classique, ce panier de soins serait réduit, c'est-à-dire qu'il y aurait une série de pathologies qui ne seraient pas prises en compte. C'était une hypothèse. La deuxième hypothèse qui apparaissait, c'était qu'il y aurait un ticket modérateur, c'est-à-dire un droit d'entrée financier pour obtenir l'AME. Et le troisième type d'attaque, c'était renforcer les contrôles pour, soi-disant, il y aurait de l'arnaque, il y aurait des abus, etc. Ce qui est strictement faux, parce qu'au contraire, il y a énormément de renoncements, de recours, énormément de personnes, de migrants qui auraient le droit à l'AME et qui ne savent pas ou ne sont pas en capacité de réaliser les démarches parce que tout simplement ils sont dans la survie au jour le jour et que les démarches administratives pour obtenir la santé, c'est uniquement pour les vraiment malades qu'on commence à s'y intéresser. Voilà. Alors actuellement, on a des précisions un peu plus détaillées. Il semble qu'il y a eu des fuites, là. Ça semble à peu près acté ce que va proposer le gouvernement, là, ces jours-ci. Demain, Buzyn intervient au Parlement dans le cadre de la discussion sur le PLES. Et mi-novembre, c'est le Premier ministre qui fera des déclarations là-dessus sur les migrants et l'assurance maladie par rapport à eux. Il semble qu'ils aient donc oublié le ticket modérateur. Par contre, ils font introduire, pour obtenir l'AME, il y a certaines pathologies qui ne vont pas être prises en cause. Il y aura une demande d'entente, voilà, c'est ça le mot de chercher, une demande d'entente préalable pour certaines pathologies. On ne connaît pas encore tout à fait lesquelles, mais c'est ça. Et le troisième élément qui, lui, est maintenu probablement, ce sont des contrôles renforcés sous la forme suivante, c'est que la gestion des AME est centralisée à partir de janvier-février dans trois centres, et plus dans chaque centre de la CPM, à Paris, pour Paris, Bobigny pour tout ce qui est de l'Île-de-France, et Marseille pour le reste de la France. Ça veut dire qu'en centralisant, on peut évidemment beaucoup plus contrôler et taper, c'est clair. Donc, il y aura moins d'obtention d'AME. Voilà, on en est là pour l'AME. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile d'obtenir l'AME. C'est difficile d'obtenir l'AME. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup d'abus de pièces demandées. Et que quand on n'a pas l'AME, pendant des mois et des mois, c'est impossible de soigner. Il y a des pathologies qui s'aggravent, et au final, ça coûte évidemment beaucoup plus cher. Ça va embouteiller les services des urgences si on n'a pas besoin de ça. Bref, c'est un non-sens, et à la fois au niveau de la santé individuelle et santé publique, au niveau économique, c'est stupide. Par contre, alors là, il y a un autre type d'attaque qui est sûr, qui est sorti là, dans le JDD de ce dimanche, c'est par rapport aux demandeurs d'asile. Par rapport aux demandeurs d'asile, il est prévu, ça semble absolument certain, un délai de carence de 3 mois pour qu'ils puissent demander la CMU. Alors, je vous explique. Les demandeurs d'asile avaient le droit à la CMU, CMU Puma, à partir du moment où ils avaient leur attestation de demandeur d'asile. Et là, ils pouvaient demander obtenir le dossier de la CMU, ça prenait quelques mois. Mais ils avaient immédiatement cette possibilité dès qu'ils avaient leur attestation. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient reconnus, hein. Il y en a un peu 30-35% qui sont reconnus réfugiés politiques, les autres sont. Et donc, une fois qu'ils sont. Ils perdaient leur bénéfice de la CMU une fois qu'ils étaient déboutés. Et là, ce qui est prévu, c'est 3 mois. Mais il faut voir comment on obtient l'attestation de demandeur d'asile. Il faut d'abord faire la queue. Aujourd'hui, il y a 3 services à Paris, 3 adresses. Qui s'appelle les structures de structures d'accueil des demandeurs d'asile, les SPADA. C'est la première étape où ils sont reçus On va leur expliquer ce que c'est que la demande d'asile. Et c'est ce SPADA qui leur produira, qui leur donnera une date pour être convoqué au guichet des demandeurs d'asile. Donc c'est plusieurs mois. Aujourd'hui, il y a des gens qui campent pendant plusieurs jours devant ces structures-là pour avoir leur premier accueil, leur premier rendez-vous. C'est la première étape. La deuxième étape, donc, c'est après convocation qu'on reçoit au bout de plusieurs semaines à plusieurs mois, donc au guichet de demandeur d'asile. Donc c'est, on additionne ces 3 mois de carence, là plus déjà 2-3 mois avant, ça va faire 6 mois, 7 mois sans couverture médicale. Là aussi, même problème au niveau santé individuelle et santé politique. Alors juste un truc, les associations humanitaires sont vent debout et vont continuer comme ils avaient fait sur l'AME à se mobiliser. Et y compris d'un point de vue du droit international, c'est en contradiction avec le droit international. Parti à un article de la Convention de Genève, l'article numéro 23, les réfugiés, les demandeurs d'asile, parce qu'ils sont particulièrement vulnérables, fragilisés, exposés, doivent être protégés immédiatement. Et donc là, c'est pas le cas. Donc voilà, on en est là. Sur l'AME, ils ont un tout petit peu reculé parce qu'il y a une mobilisation importante. Mais sur les demandeurs d'asile, là, ils tapent. C'est dans la fine logique de la loi asile-immigration que vous connaissez. Hein. On est tout à fait dans cette optique-là. Voilà.
Mathilde, je suis éducatrice spécialisée en équipe mobile de psychiatrie adolescent à la PHP à Colombes. Je suis syndicale à CGT et je milite au FPA et dans un collectif de travailleurs sociaux, travailleurs sociales. Donc c'est plus là-dessus que je vais essayer de témoigner un petit peu de l'état du secteur et de ses mobilisations. Alors c'est un secteur hyper spécifique, mais qui connaît beaucoup de similitudes avec ce que traverse le champ de la santé. Donc très spécifique parce qu'on recouvre des champs comme le handicap, la protection de l'enfance, l'insertion, tous les métiers d'aide et d'accompagnement en fait, des publics fragilisés pour X ou Y raison. C'est très très diversifié au niveau des métiers, des structures. On est aussi bien dans le public que dans le privé, dans des associations qui assurent des missions de service public. Donc, voilà, c'est un secteur très très éclaté. Pourquoi je dis qu'il connaît beaucoup de coordonnées communes avec la santé, c'est aussi bien dans les attaques auxquelles il a à faire face, ce secteur, dans les conséquences que ça a sur le terrain, pour les professionnels comme pour les publics, dans les revendications qu'on pourrait avoir, qui sont très très proches, et dans les luttes qu'on devrait avoir en commun. Donc en termes d'attaque, voilà ce qui a été dit sur l'austérité qui est appliquée à Marche Forcée depuis une dizaine d'années et qui là connaît des tournants encore plus agressifs, c'est aussi une réalité pour le secteur du travail social. Pour donner des exemples, hein, sur le département du Nord, il y a eu il y a 2 ans 700 fermetures de places en structure d'hébergement pour les enfants en danger. Sur la cellule d'accompagnement des mineurs non accompagnés à Saint-Denis, elles sont, je dis elles parce que c'est très féminin comme secteur aussi, mais elles sont 11 pour 1200 mineurs, donc enfin, on peut faire le ratio, c'est des nombres de prises en charge ingérables et assez inhumaines. Donc c'est des fermetures comme ça de postes, de services entiers. Avec des conditions de prise en charge déplorables, y compris dans les départements où il y a de l'argent, hein, sur les Hauts-de-Seine où je suis, il y a un excédent budgétaire de 550 millions d'euros. Pour autant, les services de protection de l'enfance qui sont soumis au financement des départements sont complètement asséchés, avec des fermetures aussi de places de foyer, etc., des collègues qui ont des nombreuses de situations de jeunes à suivre qui sont pas tenables. Donc voilà, ça c'est pour tous les services publics et le secteur du travail social n'est pas épargné. C'est une précarisation accrue des travailleurs et des travailleuses sociales, exactement comme pour les soignants, hein, avec des conditions de vie de plus en plus précaires, des conditions d'accès à l'emploi aussi de plus en plus précaires, avec la réforme de la fonction publique public, on est touché au même titre que l'ensemble des services publics. Il y a de plus en plus d'intérim aussi. Ils sont en train de refonder complètement toutes les conventions collectives du secteur, donc pour ceux qui sont dans le privé. Il y a eu des fusions de toutes les organisations patronales, et là, leur objectif, c'est en train d'être mis au travail. C'est de pouvoir lisser toutes les conventions collectives, pour certaines qui étaient encore un peu protectrices, mais de lisser et de niveler vers le bas, évidemment. C'est l'introduction de logiques managériales qui ressemblent à celles de l'entreprise, hein, d'un système libéral complètement décomplexé. On a l'entrée de la tarification à l'acte dans le handicap notamment. On a les contrats à impact sociaux qui sont des nouveaux mécanismes de financement qui permettent de faire financer par le privé des initiatives qui devraient être prises en charge par le public avec des systèmes d'intérêt en fait, y compris pour les banques, sur le dos de prise en charge d'enfants placés, de personnes en situation corporative hébergée dans des structures d'urgence. Enfin, voilà, des mécanismes nouveaux qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques décennies et qui transforment complètement le secteur. On a vraiment l'impression d'être dans une bascule là, de ce à quoi sert le secteur social et avec une volonté si possible de faire du pognon dessus, et ça semblait pas possible jusque là et en fait ils trouvent les mécanismes pour renouveler le système. On sait que le capitalisme cherche peut-être des nouvelles manières de pouvoir se financer, et là on y est, et dans des secteurs qui semblaient pas pouvoir être propices à ça. Et donc, au bout du bout, pour les professionnels, comme ce que tu disais, Carole, des pertes de sens assez effroyables, les gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur demande de faire, et avec une instrumentalisation, pour notamment les mineurs non accompagnés ou les personnes qui n'ont pas de titre de séjour, il y a le fichage biométrique qui se met en place pour les mineurs, il y avait eu pas mal de bruit autour de la circulaire Collomb, qui permet au pouvoir public de demander si les structures hébergent ou non des personnes qui n'ont pas de titre de séjour valide. Enfin, voilà, on demande aux travailleurs sociaux de faire des trucs qui sont contraires à ce qui les a a priori conduits vers ces métiers-là. Et dès les formations, puisque évidemment, pour adapter les métiers à ce nouveau système, on refonde aussi les formations. Et cette année, il y a une grogne, une mobilisation qui est en train d'émerger dans les centres de formation, puisqu'ils subissent déjà les conséquences de ces réformes-là. Ils ne trouvent pas de stage, ils sont précarisés. Là, il y a des problèmes de non-redoublement possible pour ceux qui sont victimes du changement de diplôme. Et donc là, une mobilisation qui est en train d'émerger. Je crois que le 15 novembre, ils appellent à intervenir sur les directions régionales des jeunesses. Enfin, je ne sais plus c'est quel DGRCS, je ne sais plus exactement ce que signifie le sigle, mais on peut imaginer que ça va ressembler à ce qu'ont fait les internes devant l'ARS pour hier, je crois. Par rapport à des conditions d'études et d'accès à l'emploi qui sont en difficulté par rapport à toutes les attaques du terrain. Face à tout ça, il y a des luttes qui se multiplient. On essaye de les dénombrer et c'est pas du tout. Je pense qu'il y en a plein dont on n'a pas connaissance, mais on remarque qu'il y en a de plus en plus en fait. Je crois que sur l'année, on était à une centaine en septembre de luttes isolées dans le secteur social, médico-social. À la rentrée, il y a eu aussi un coup d'accélérateur. Là, il y a des services qui sont partis en grève et dans des conditions beaucoup plus combatives en fait que ça a pu être à d'autres moments où c'est une journée de grève, quelques heures. Là, tout de suite, les collègues ils disent on va partir en grève plusieurs jours et faire en sorte que les services doivent fermer, sinon on n'obtiendra rien. Donc il y a comme ça un cheminement chez pas mal de collègues qui s'opère dans une volonté de lutte un peu plus massive que ce qu'on a pu connaître dans la dernière période. Par rapport à ça, ça reste très éclaté et on essaye de créer des liens dès qu'on peut. Ça a été vrai avec la psychiatrie l'année dernière. On a tenté comme ça de faire des AG communes, de se regrouper en manif, de voir ce qu'ils faisaient, points communs dans nos revendications et dans ce qu'on subissait et dans ce qu'on avait à défendre. Ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois, en tout cas, qu'on prend des initiatives, même quand elles sont toutes petites, ça a de l'écho. Alors ça reste... il reste énormément à faire par rapport à ça, mais ce qu'on constate, c'est que toute initiative est bonne à tenter et trouve de l'écho. On a fait une rencontre nationale travail social en septembre, à une petite échelle, ça ne reposait pas sur beaucoup d'équipes, mais ça a eu un écho dans le secteur. Il y a eu une vingtaine de régions qui se sont déplacées. Y compris des représentants syndicaux de Sud, de la CGT. À ce moment-là, on n'avait pas de date dans le viseur. Si on avait eu le 14 novembre, peut-être que c'est cette date-là qu'on aurait défendue. On n'en avait pas à ce moment-là. On espérait que les syndicats amènent quelque chose. Ce n'était pas le cas. Et du coup, on s'était raccroché à la date du 5 décembre, qui, entre-temps, a connu un écho un peu plus important. On pense que ça va être une journée de mobilisation importante, mais... Dans le secteur du travail social ne sera peut-être pas très visible, mais en tout cas, on espère qu'on pourra regrouper les collègues autour de cette date-là, en lien avec le secteur de la santé, comme à chaque fois qu'on le fait. Et nous, l'idée qu'on aurait, c'est de dire aux collègues, faut y repartir demain, quoi. Une journée de grève ne suffira pas, et la question de la reconductible... Autant ça paraissait lunaire des fois chez des collègues d'aborder ça dans des assemblées générales, personne n'en était là. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que tout le monde en est là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des débats qu'on peut amener beaucoup plus rapidement et qui trouvent un écho plus fort chez les collègues. Donc, on peut imaginer que ça puisse prendre de l'ampleur et les collègues ont conscience que le secteur social tout seul, il ne va pas gagner des victoires importantes s'il se bagarre tout seul dans son coin. Et ça, je pense que ça chemine dans pas mal de secteurs professionnels.
Moi, je voulais revenir sur la médecine de ville. Quand on est malade, on veut aller voir le médecin. C'est un peu le maquis quelque part, parce que... Il y a des médecins qui sont conventionnés en horaire sécurité sociale et d'autres qui sont conventionnés secteur A ou secteur B.
En horaire libre.
Voilà, en horaire libre. Est-ce que là, il n'y a pas un problème aussi? Parce que moi, je trouve que c'est normal que les gens, c'est tellement cher d'aller chez le médecin que les gens, ils se disent, moi, je vais aux urgences parce que je n'ai pas les moyens de me soigner parce que ça revient. Vraiment, c'est trop pour un budget. Est-ce que là, il n'y aurait pas aussi quelque chose à voir au niveau de la médecine de ville?
Je vais répondre. La crise du système de santé, elle est globale, elle est générale. Les deux piliers du système de santé français, c'est la sécurité sociale, comme il a dit, solidaire, universelle, etc. Et puis l'hôpital public ouvert à tous et de qualité. Aujourd'hui, les gouvernements, depuis des années et des années, veulent remettre en cause ce schéma-là et développer, au contraire, tout ce qui est en dehors, c'est-à-dire le système marchand de distribution des soins. C'est l'hôpital privé, l'hospitalisation privée, d'ailleurs, de plus en plus, même en psychiatrie, c'est privatisé, les EHPAD et... y compris la médecine de ville. Alors, je ne parle même pas des laboratoires pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique, etc., ou de l'industrie qui produit les scanners, les machins, les trucs. C'est un marché considérable, en milliards et en milliards. C'est un marché considérable. Donc là, il y a des enjeux terribles, et les gouvernements veulent réduire les dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses qui sont remboursées. Si pas remboursé, ils s'en foutent, c'est ce que tu dis, le secteur 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, Il y a ce qu'on appelle les déserts médicaux. Il n'y a plus de médecins, tout le monde sait, il y a 6 millions de personnes qui sont touchées par ces déserts médicaux. C'est impossible d'avoir un nouveau médecin traitant, etc. etc. Il y a un réel problème en termes de régulation des structures de santé de proximité. Il faudrait qu'il y ait organisé, enfin, sortir du système libéral, du paiement à l'acte, qui est une aberration, parce que non seulement il coûte cher, il est inflationniste, mais surtout il ne résout pas les problèmes de prévention, les problèmes de santé publique, etc., qui aujourd'hui sont cruciaux avec le vieillissement de la population, avec les enjeux climatiques. Il y a des problèmes de santé publique que la médecine libérale est strictement incapable de répondre. Donc il faut transformer ça. Transformer ça, il faut des structures de santé pluridisciplinaires, financées par les sécurités sociales, où les jeunes médecins veulent travailler dans ce genre de choses. Ils veulent être salariés, ils ne veulent pas travailler 60 heures comme nous on travaillait, et ils veulent faire un travail dans leur quartier, pas uniquement s'occuper de leur patientèle, mais s'intéresser aux besoins de santé de la population dans leur quartier. Mais ça veut dire revenir sur... la sainte liberté d'installation des médecins qui s'installent aux endroits où il y a des besoins et pas forcément tous dans le sud ou le long des côtes ou etc. où il n'y a pas de chômeurs. Donc c'est plus que de la régulation, c'est de la contrainte, mais ça demande à s'opposer. Enfin, c'est des rapports de force. Il faut une mobilisation globale de la société pour modifier ça, mais il faut faire très attention parce qu'y compris les structures de santé de proximité aujourd'hui, on dit c'est les maisons de santé, les maisons médicales de santé de type un peu libéral qui vont régler la question, mais déjà les grands groupes financiers, les grands groupes qui sont investis dans leur grille des personnes âgées commencent à lorgner, y compris à mettre des sous du fric dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Donc c'est bien autre chose qu'il faut. Il faut vraiment un service public de santé, un hôpital public et des centres de santé dans les quartiers qui vraiment répondent aux besoins de santé et soient financés par la sécurité. Et on interdit, évidemment, dans ce cadre-là, le secteur 2.
Chanson sans calcium, chantée par un pauvre homme qui a mauvaise mine. C'est une chanson sans calcium, une chanson à la gomme qui manque de vitamine.
C'est une chanson à virus,
une chanson sans tonus.
Elle est épouvantable.
C'est une chanson pas dans le vent qui a besoin de fortifiant tellement qu'elle est minable.
Les paroles sont squelettiques,
la musique rachitique,
pas question ça balance.
C'est une chanson sans gimmick,
complètement lymphatique,
c'est presque une ordonnance.
C'est une chanson pas dans le coup,
c'est un genre de rock mou,
pas pour le hit parade.
C'est une chanson à l'aimier pour maison de santé, une triste salade.
Jeudi 14 novembre, décollez direction le Café Solidaire pour une émission spéciale en direct et en public.
L'enjeu, la privatisation d'Aéroports de Paris et le référendum d'initiative populaire en cours.
Rendez-vous à partir de 18h au 1 rue de la Solidarité pour une émission en direct et en public.
Et tous les passagers devraient déjà être montés à bord par la porte numéro 69.
C'est une chanson sans espoir qui raconte l'histoire d'une pauvre infirmière. Amoureuse à en crever d'un docteur qui
manière.